Je souhaite effectivement remercier le comité d'avoir sélectionné cette présentation concernant l'image mentale et si celle-ci peut améliorer l'apprentissage d'un geste chirurgical avec un exemple, celui du lavage chirurgical des mains. Alors je ne peux pas faire cette présentation sans nommer Jean-Jacques Moreau qui travaille à l'université de Limoges et qui dirige également le collège de neurochirurgie et qui a impulsé cette idée et m'a donné les moyens de réaliser cette étude. Alors le contexte, il est relativement simple. La chirurgie est finalement difficile à enseigner, tant sur le plan gestuel que technique. Alors pourquoi? Parce que les outils pédagogiques sont finalement peu adaptés, les supports d'exercice sont relativement chers, rares ou parfois même inadaptés, et le passage au réel est toujours source d'angoisse pour l'enseignant bien sûr, mais également pour l'enseigné, avec en plus des conséquences possibles sur le plan médical, éthique ou légale. Enfin, il faut remarquer quand même que l'enseignement de la chirurgie dépend du nombre des enseignants, et ceux-ci sont pas si nombreux que ça. La deuxième notion, c'est qu'est-ce que l'image mentale? Alors, selon la définition du dictionnaire, l'image mentale correspond à une représentation interne d'un objet au sens large. Il peut s'agir d'un objet concret, d'une situation, voire d'un concept. L'image mentale apparaît d'emblée comme une copie de la réalité avec son volume, ses couleurs, ses sensations. Bref, nos images mentales sont générées par notre perception, nos cinq sens. Il faut y rajouter également les perceptions motrices et, bien sûr, l'état psychique, la joie, la tristesse, l'état de bien-être ou de malaise. Alors, la définition physiologique qu'en avait fait Jeannerod et De Setti en 95 exprime relativement bien ce que c'est que l'image mentale. C'est la répétition symbolique d'une action physique en l'absence de mouvements musculaires identifiables. Alors, les définitions varient en fonction si on est philosophe. Et là, je vous ai représenté une... c'est une illustration très libre de l'allégorie de la caverne de Platon. Il existe également des définitions dans le domaine des neurosciences, en psychologie, bref, l'image mentale, ça concerne beaucoup de monde. Alors juste un petit rappel pour vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Alors à gauche, vous avez une IRM fonctionnelle cérébrale. Vous avez ici une activation d'une région particulière qui est effectivement l'homonculus de Benfield, c'est-à-dire la somatotopie, la représentation schématique du corps dans sa forme motrice. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que si l'on bouge la main, on a une activation de ce cortex. Mais si l'on pense qu'il faut bouger la main, on a la même activation. Alors, en reprenant la littérature, cette image mentale est très riche dans le domaine sportif et tout le monde a en tête ces grands champions de ski qui, avant le slalom géant, s'isolent, se concentrent et refont le parcours. Alors, ça a été prouvé par de nombreuses études, l'image mentale est très performante dans la préparation sportive. Mais également, dans un autre domaine, c'est celui le domaine musical. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce film Bagdad Café, où effectivement, un des acteurs dans le film essaie de jouer le prélude en do. Et puis, en fait, c'est dans un café, donc on lui dit de suite qu'il faut absolument pas qu'il dérange comme ça avec cette musique. Et donc, il s'isole, il prend une planche. Et puis il s'exerce sur cette planche, c'était de l'image mentale finalement. Alors quant à la chirurgie, finalement il n'y a pas énormément de choses dans la littérature. Ce qui nous a permis de faire cette étude, c'est-à-dire est-ce que l'image mentale finalement pourrait être utile dans l'apprentissage chirurgical? Alors d'abord, il faut je crois imaginer... un geste simple. Alors, le geste simple pour nous, qui est constant avant chaque chirurgie, c'est bien sûr le lavage chirurgical des mains. Ensuite, il faut des personnes pour tester. Alors, on a abondamment des étudiants en médecine dans les services. Alors ceux-ci doivent être naïfs, c'est absolument pas négatif, c'est simplement qu'il faut vérifier qu'ils n'aient jamais utilisé l'image mentale et qu'ils ne sachent pas effectivement se laver les mains. Et puis il faut concevoir un moyen, et nous avons élaboré avec la collaboration du service d'hygiène hospitalière, et je dois remercier le professeur Anne-Marie Rogue qui n'est pas là, qui devait être là ce matin, et qui m'a envoyé un petit mot très très gentil sur la présentation, et avec elle nous avons pu monter une vidéo spécifique concernant ce lavage chirurgical des mains, en plus des référentiels, c'est-à-dire les consensus sur la prévention des infections nosocomiales qui sont tout à fait téléchargeables et accessibles par tout le monde. Bref, le but, c'était pour l'étudiant un lavage correct, c'est accès au bloc opératoire. Et en plus, on faisait bien des démarches pour la lutte contre les infections nosocomiales. Alors, 78 étudiants ont été inclus dans ce programme. Ils ont été randomisés. 40 étudiants dans le groupe 1 sans image mentale, 38 dans le groupe 2 avec image mentale. Tous ont eu une présentation du geste technique qui consistait à présenter la vidéo, à en faire des commentaires et répondre aux questions des étudiants. Et après cette série, il y a eu effectivement une révision, voire deux si besoin, et au final une évaluation par une tierce personne. Et je dois remercier là les infirmières de bloc opératoire qui ont participé à cette évaluation sur une note établie par rapport à une grille de 20 points. Alors le protocole, qu'en est-il? Ça consistait à 5 minutes de relaxation. Alors ça, c'est très important parce que il faut d'abord des petits groupes, parce que sinon Si les groupes sont trop grands, il y a des petits ricanements. Bon, il faut vraiment isoler les gens avec une salle adaptée, un confort, une température, et expliquer la technique. C'est une technique, c'est pas de la sophrologie. Il y a de la sophrologie dans la relaxation, mais c'est pas que ça. Une mise en confiance avec le contrôle respiratoire, etc., etc. Ça va relativement vite à un certain moment. Et puis 10 minutes pour imaginer la mise en situation. Alors il faut leur faire penser au plan de déroulement d'un lavage chirurgical des mains, et surtout au démarrage. Comment initier cette technique? Par quoi vous allez commencer? Et ça implique en fait une simplification et un agencement logique. Alors la personne qui participe à cela peut commenter également l'ambiance, les bruits, l'habillage, c'est-à-dire influencer le petit groupe à ce qui va se mettre en situation réelle, c'est-à-dire le scope, le masque avec un confinement particulier, etc. Et puis débuter cette mise en situation en s'aidant éventuellement de la gestuelle. L'étudiant peut éventuellement mimer des gestes qu'il aura incorporé dans sa planification du lavage chirurgical des mains. Alors les résultats sont sans appel, parce que le groupe 1 sans images mentales, la note moyenne c'est autour de 9. On passe à 16 hein, lorsque on utilise l'image mentale. Donc c'est une technique pour moi qui me semble très efficace. Alors on va passer très très rapidement sur comment, mais il y a quelques auteurs qui ont montré que le sillon interpariétal était très impliqué dans l'organisation séquentielle cognitive. Il existe également des activations dans des connexions langage, mémoire, mouvement, l'implication bien sûr émotionnelle et le cortex préfrontal. Et puis il faut dire que les encouragements renforcent, ce qui veut dire qu'il y a une dimension psycho-affective. Bref, vous comprenez bien que les aires associatives sont prédominantes dans ce fonctionnement et qu'il y a beaucoup de travail à effectuer pour comprendre quelles sont ces aires associatives qui sont impliquées. Alors, il peut y avoir des limites également à cette technique. Trop d'images tue l'image. Effectivement, les auteurs sont bien d'accord pour dire que les novices sont plus réceptifs. Alors, on peut complexifier un petit peu ces choses avec l'image mentale associée des gestes, des paroles, des émotions, des perceptions. Ça a été fait pour les sportifs de haut niveau, mais attention, si on complexifie un petit peu trop, si on rend la situation d'image mentale un peu trop anxiogène, il y aura une altération de cette image mentale. Alors, pour conclure, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices. L'image mentale permet un apprentissage sans dépense d'énergie, ni de matériaux, sans changement de lieu, bien sûr avec une économie d'éducateur, et pouvant se faire à n'importe quel moment. En fait, on décrit là l'auto-apprentissage dirigé. L'apprentissage est plus rapide au niveau des techniques, cela permet un passage au réel beaucoup plus facile en minimisant les risques. Alors c'est probablement une technique à diffuser en sélectionnant les objectifs. Vous l'avez vu, il faut que ça soit des objectifs très précis, des gestes très courts, très simples et un public très novice. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Je vais vous parler d'un outil qu'on a développé, qui est libre et que vous pouvez retrouver sur le réseau depuis longtemps, sur le site de l'UMVF également. Un outil qu'on a développé pour la recherche, mais que j'utilise à des fins pédagogiques, parce que finalement ça a un intérêt pour mieux faire comprendre. Alors les phénomènes biologiques sont complexes, sont difficiles à comprendre par l'étudiant, et des simulateurs peuvent aider et permettre d'appréhender mieux cette complexité. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de manipuler les paramètres et l'environnement expérimental, de faire des expériences simulées qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe quand on modifie tel ou tel paramètre. Et dans le domaine qui nous intéresse ici, ça va être changer des conductances, changer des concentrations de sodium ou de potassium à tel ou tel endroit. Donc on a développé un outil qui permet de coupler un polycopier numérique avec du texte, des figures, des expériences à simuler, et on va les simuler avec des simulateurs. Je dis des parce qu'en fait c'est tout un ensemble de simulateurs qu'on avait développé pour la recherche en neurosciences dans laquelle j'étais impliqué sur la rythmogénèse respiratoire. Alors la physiologie du neurone, c'est complexe, c'est difficile à comprendre par l'étudiant, et l'utilisation des simulateurs qu'on a développés, ça va permettre de manipuler les conductances ioniques, les drogues, l'environnement, et ça permet d'appréhender mieux. Alors on a développé ça pour la recherche, et c'est une station de neurobiologie numérique qui s'appelle XNBC, qui a été développée depuis longtemps, et qui est libre et téléchargeable sur Internet, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors on l'a adapté pour la pédagogie, en la couplant avec un texte pédagogique illustré sur le fonctionnement du neurone, parce que on a fait en 2005 un bouquin de neurophysiologie qui est de la neurophysiologie à l'exploration fonctionnelle, et qui a eu pas mal de succès puisqu'il est en train d'être réédité. Et le texte propose à l'étudiant, via un navigateur, des exercices à faire pour comprendre neurones et réseaux de neurones en utilisant les simulateurs, une partie des simulateurs de XNBC. Alors le simulateur, j'ai déjà vous le présenter très rapidement, il y a deux éditeurs de neurones, on parlera tout à l'heure, pour simuler les neurones individuels. Le principe, c'est de créer un neurone, ou plusieurs types de neurones. Ensuite, on va utiliser l'éditeur de réseau de neurones. Là encore, il y en a deux, un simple et un complexe, de façon à assembler ces neurones qu'on vient de fabriquer en réseau. Et puis, une fois qu'on a ces réseaux, qui peuvent être des réseaux de réseaux, on va simuler les assemblées de neurones en interaction, et comme ça, essayer de comprendre les comportements de petits et de grands réseaux. Nous, on l'avait fait pour les grands réseaux, qui génèrent le rythme respiratoire, mais pour les étudiants, on se contente simplement de petits réseaux pour leur montrer les histoires d'interaction entre un neurone et un autre, les différents circuits individuels qu'on peut trouver dans le système nerveux. puis on peut mettre des drogues, stimuler, voir ce qui se passe quand on détruit un morceau. Et puis évidemment, on a un visualiseur de résultats pour voir ce qui s'est passé. Et puis des outils d'analyse, là, qu'on leur fait peu utiliser, étant donné que c'est plutôt des analyses de Fourier, des analyses de séries temporelles et tout, qu'on peut, qui sont à disposition. Mais enfin, bon, alors c'est entièrement graphique, ce qui fait que c'est relativement ludique. Alors, le logiciel, il se comporte de la façon suivante. Il se présente de la façon suivante. Je vais aller très vite parce qu'on va voir les différents éléments rapidement. Il y a un panneau de contrôle et on va aller de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on va commencer par décrire les neurones avec des simulateurs de neurones individuels. Après, on va les assembler en réseau avec des éditeurs de réseau. Ensuite, on va simuler. Éventuellement, on pourra injecter des drogues quelconques qui agissent sur tel ou tel courant. Et puis, on va pouvoir voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le simulateur produit des fichiers et puis qui sont ensuite relus par différents types d'analyseurs. Alors, il y a deux éditeurs. Un qui se présente avec des boutons, des espèces de potentiomètres qu'on va tourner et qui va permettre de changer les différents paramètres et de voir ce qui se passe en temps réel directement. Ou bien un qui est comme ça, qui est une simulation un peu plus simple, ce qu'on dit phénoménologique, d'où le P. Phénoménologique, ça veut dire qu'on va décrire simplement les variations de potentiel de membrane sans se préoccuper de ce qui les a produits, et avec des curseurs pour les différents paramètres. Et alors que là, Geneurone, on va changer les conductances, G pour la conductance, on va changer les conductances qui vont entraîner, elles, les changements de potentiel de membrane. Alors, l'éditeur Geneurone, il a 14 courants possibles, mais en fait, pour les étudiants, on n'en utilise que deux, hein, le sodium et le potassium. Et puis, on voit directement ce qui se passe. On peut regarder, mais ça, on ne leur montre pas trop parce que c'est plus complexe. On se contente simplement des choses simples pour ne pas les noyer. Après, on a deux éditeurs de réseau. En général, il y a deux outils, parce qu'il y en a un qui était plus simple, qu'on a commencé par ça, et puis après on s'est dit que ce serait mieux si c'était un petit peu plus sophistiqué, mais on a gardé l'ancien, et en fait, pour les étudiants, ça suffit largement, celui-ci, c'est-à-dire qu'on a des groupes de réseaux, ici, je sais, j'arrive pas à lire, ici, il y en a 10, il y en a 100, on peut faire des réseaux jusqu'à 10 000 neurones. Ça, quand c'est un rond, c'est qu'il n'y en a qu'un seul, ou alors on peut les mettre même anatomiquement, et là, on peut même les regarder en 3D, dans les trois dimensions de l'espace, et on peut les prendre les uns avec la souris et les déplacer. Alors, ça a un sens, parce qu'en fait, le simulateur simule la durée de propagation des potentiels d'action sur les axones. Alors, ça a beaucoup d'intérêt, ça, pour le traitement du signal et pour la façon dont se forme le signal et l'ensemble de ce qui sort du réseau. Une fois qu'on a fait ça, on va simuler. Alors là, c'est plus simple, et pour éviter de ralentir, on voit simplement un petit peu comme dans les salles de réanimation, c'est-à-dire qu'on a une image avec le trait noir qui se déplace, et tout ce qui est de ce côté-là, c'est ce qui s'était passé avant, et tout ce qui est de ce côté-là, c'est ce qui vient tout juste de se passer, ce qui fait qu'on peut suivre pendant la simulation. Alors, en dessous, c'est les potentiels d'action. À chaque fois qu'il y a un petit point, c'est un potentiel d'action sur un neurone, et alors qu'en haut, c'est simplement l'histogramme, la somme de tous les petits points qu'il y a en dessous. Et puis, pendant la simulation, on peut mettre des courants, du bruit, on peut mettre des stimulations, on peut faire des destructions, etc. Et puis après, là, c'est ce qu'on voyait pendant la simulation, on peut avoir différents types d'analyses. L'outil de visualisation, qui est le plus utilisé, qui est le plus mentalement facile à se représenter, ben c'est le codage en couleur du potentiel de membrane. À chaque fois qu'il y a un petit point rouge, c'est un potentiel d'action, et puis ça se déplace, et puis c'est comme un lecteur de CD, hein, c'est-à-dire qu'on va se déplacer, l'arrêter, et puis regarder, et puis on peut même planter une électrode avec la souris et voir dans ce cas-là le comportement de tel ou tel neurone. Et puis il y a une autre représentation qui est originale, c'est la représentation qu'on appelait matricielle, c'est-à-dire qu'on a tous les neurones qui sont les uns sur la diagonale, les petits points bleus, qui vont changer de couleur en fonction du potentiel de membrane, et puis les traits, ce sont les axones qui vont de l'un à l'autre. Alors ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, de l'un à l'autre, on ne voit pas tout parce que l'écran n'est pas assez grand, mais vous voyez qu'il y a un ascenseur pour voir l'autre réseau en dessous, et quand on regarde ça, alors c'est dynamique, on a ici, par exemple, on voit les potentiels d'action, les petits points rouges qui vont se déplacer, faire des vagues d'activité des cours de la simulation. Il y a un installeur pour que ça puisse tourner. Tout ça avait été développé sous Unix, hein, on a fait un installeur sous XNBC, qui s'appelle Windows, qui s'appelle WinXNBC, qui permet de faire tourner ça sous Windows. Alors, pour la pédagogie, d'abord, on télécharge le simulateur. Actuellement, il existe pour Windows et Linux. Une version OS X est prévue. J'ai pas encore pris le temps de la faire, mais c'est pas très compliqué vu que OS X, le Mac, ça se base sur un Linux. C'est lançable localement pour faire les exercices proposés. Et le polycopier numérique, il est lu via un navigateur avec le texte explicatif et illustré sur le fonctionnement du neurone, avec des exercices à faire en utilisant un des simulateurs. Et le tout sur un serveur web. Alors, on l'a fait ça à partir de notre bouquin, hein, ça c'est en cours de réédition, et vous voyez que l'éditeur a prévu notre demande de pouvoir accéder déjà à toutes les images, parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir réutiliser des images. Il est très très illustré, il y a beaucoup d'images qui sont très jolies, qui ont été refaites par un dessinateur professionnel. On peut donc ceux qui auront acheté le livre, ça c'est une, peut-être qu'il y a des négociations à faire, pourront télécharger les images et les utiliser pour leurs cours, et puis ça donne accès aussi à aux exercices qui sont sur le net, et éventuellement ils nous ont demandé de faire des exercices supplémentaires de façon à ce qu'il y ait un petit plus à acheter leur bouquin. Donc sinon ils nous autorisaient plus à continuer à mettre en ligne le texte. Alors là c'est la page de la partie qui est concernée par la simulation, hein. Il n'y a que la neurophysiologie du neurone et des réseaux de neurones, hein. Tout le reste après n'est pas pris en compte. Et alors après, on a accès au texte et au simulateur en cliquant sur les différents boutons ici, et puis on peut accéder aux différents simulateurs là, et donc ça va se présenter comme ça. Et on appelle le poly. Le poly, il y a des petits boutons qui appellent un petit texte ici qui est qu'est-ce qu'il faut faire avec tel ou tel simulateur. Et on vous explique qu'il faut tourner tel ou tel bouton et on voit ce qui se passe. Et on vous suggère de changer tel ou tel paramètre pour voir quel est. Alors, on fait utiliser les deux simulateurs. Voilà. Comment ça se présente en vrai? Donc on a utilisé, enfin, à partir du bouton tonateur, un outil aussi plus générique, hein, qui permet de généraliser le concept de poly interactif. Si un simulateur a été développé dans un domaine, ben cet outil permet de créer et d'utiliser un poly interactif. Donc c'est la même chose, si ce n'est que là vous tombez directement sur les chapitres du poly, les sous-chapitres du poly, et puis il se souvient d'où vous en étiez, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre lecture, et après c'est exactement le même poly évidemment qui vous amène le texte et puis le simulateur. Là c'est fait avec deux écrans. Voilà, alors l'état actuel, c'est il y a les exercices sur le neurone seul, ils sont écrits, ils sont proposés en libre sur le site de l'UMVF, c'est référencé à la nouvelle édition du bouquin. Du fait de la réédition du livre, les exercices sur les réseaux sont écrit et proposé sur un site d'Elsevier Masson pour les acheteurs du livre. Il y aura un code à gratter. Il n'est pas encore paru, le bouquin. Je suis en train de relire les épreuves. Tous les outils du simulateur sont évidemment fonctionnels et ils ont permis de réaliser de nombreux travaux de recherche à la Genèse du rite. Voilà, la disponibilité, c'est soit directement sur le poly interactif ici, soit sur les ressources sur l'umvf.org dans ressources des enseignants, sciences fondamentales et puis neurophysiologie, ou bien dans ressources et téléchargements outils.
Je vais vous présenter un travail qui a été initié pour des raisons de diagnostic à distance, puisque bien que nous soyons des pays très développés sur le plan de la santé, on a quand même une désertification des imageurs qui existe. Et dans beaucoup de petits hôpitaux, à 50 km des CHU, on a des patients qui nécessitent une échographie, par exemple, à 10 heures du soir ou même avant, et qu'on est obligé d'amener en ambulance pour une échographie, sachant que dans 50% des cas, on leur dit bah, « écoutez, il n'y a rien de grave, vous repartez chez vous pour vous faire soigner ». Et de conclusion, on a déplacé des patients, on a dépensé de l'argent pour pas grand-chose. D'où l'idée de faire le diagnostic à distance. Et pour ceci, nous avons développé un système robotisé qui, en deuxième intention, s'est avéré être un outil de formation. Donc j'avoue ma faiblesse, on a commencé par vouloir faire du diagnostic et on s'est aperçu qu'en faisant le diagnostic à distance, les personnes de l'environnement apprenaient en même temps à faire l'échographie et s'imprégnaient par la mémoire des gestes en trois dimensions et la représentation mentale de ce qu'il fallait faire. Donc ça c'est l'image qui fait mal parce qu'on la voit mal, mais c'est une vésicule biliaire à petite zone noire faite par un débutant qui est très content, il a vu une zone noire. Il appelle son chef et il dit voilà, je vais faire le diagnostic et l'autre lui dit surtout pas parce que comme ton image est imprécise, tu vas raconter n'importe quoi. Et il lui dit il faut l'image qui est à côté, qui est quand même un petit peu différente, mais l'observation que je voudrais faire c'est qu'entre ces deux images il y a 2 ou 3 degrés d'écart d'orientation. Et chacun sait qu'on ne peut pas guider quelqu'un à distance par la voix ou la vidéo à lui faire faire un geste si précis et répétitif. D'où l'idée de transmettre le geste de l'expert. L'échographie, c'est un métier d'artisan, c'est comme un cordonnier, j'allais dire, je suis désolé, il y a beaucoup de chirurgiens, c'est comme un chirurgien, c'est un geste très précis qu'on ne peut pas transférer par la voix. Donc l'idée de transmettre le geste, ce qui se fait aussi en chirurgie, si j'ai bien compris, puisqu'il y a des gestes très précis qui sont produits par le robot, même si le chirurgien à côté sait très bien les faire. Donc, cette idée de transmettre le geste. Alors, pour transmettre le geste, il faut avoir un système de communication adéquat, c'est-à-dire un débit assez important et pas d'interruption. Et ce débit important, on l'a avec des lignes RNIS, ou bien avec du satellite, ou bien avec de l'Internet. Donc, voilà le concept du geste transmis. Ça, c'est le site expert avec un joystick, donc l'échographiste est à l'hôpital. Et du côté site isolé, il y a un bras robotisé qui reproduit des mouvements extrêmement simples, mais en fait qui reproduit les mouvements de la main de l'expert. Alors c'est beaucoup plus simple qu'un robot de chirurgie parce qu'on n'a pas de mouvement avant-arrière, on a simplement des mouvements de rotation, de pivotement et de précession. Mais c'est suffisant pour faire une bonne image échographique. Une fois qu'on est arrivé à ça, on a développé un matériel, enfin des industriels ont développé un matériel à partir de notre concept. Ça, c'est le poste de commande avec la sonde d'échographie fictive. Ici, c'est le bras robotisé, cette armature, avec des moteurs. Et la sonde d'échographie est fixée ici. Et puis, on a un échographe sur place, évidemment, et la boîte de commande. Donc ça, c'est l'équipement qui est au site isolé, et ça, c'est le site expert. Donc, on retrouve ici ces ingrédients à travers un petit film. Donc, la visioconférence avec le médecin expert à distance, le boîtier de commande du robot, le robot lui-même, qui est tenu par un humain, et l'échographe. Et ça donne ceci lorsque ça se met en action. On a fait des expériences entre Tours et les hôpitaux avoisinants. Donc le système robotisé est mis en mouvement par l'expert pour vérifier que ces gestes de rotation et tournement divers est bien transmis. Il y a la sonde d'écho ici. On le place sur le patient et l'expert qui est à 50 km fait lui-même son image et fait son diagnostic. Et donc c'est du temps réel. Alors, si on veut apprendre à des gens à faire de l'échographie, là on sort de l'urgence. On a par exemple une expérience qu'on a fait entre Tours et Chypre par satellite. Ici, c'est la visualisation d'un rein. Donc, on progresse étape par étape pour ne pas perdre l'apprenti. On lui montre progressivement comment on arrive à faire l'image du rein. Et lui, en suivant les mouvements de la sonde au site isolé, il apprend, il mémorise la trajectoire et essaie de la reproduire ensuite. Et puis, il y a un grand intérêt aussi pour les malformations fœtales. Ça, c'est un fœtus qui se trouvait, qui se trouvait à Ceuta, dans le nord du Maroc. Nous, on était à Tours. Et on manipule à distance la sonde d'échographie qui nous montrait le placenta. Ensuite, on redescend sur la tête du fœtus. Et à ce moment-là, on peut s'arrêter et montrer comment on va rechercher, par exemple, voilà un œil, on va rechercher des malformations. Ces images sont du temps réel. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de problème de transmission d'informations. C'est vraiment typiquement de la même qualité que si l'échographe fils était à côté du patient. Donc c'est un outil d'enseignement pour ce genre de choses. Alors, quand on n'a pas des transmissions optimales, c'est-à-dire qu'on n'a pas les lignes temps réel, on a imaginé un autre processus qui est basé sur le 3D. On capture le volume de l'organe, un peu à l'aveugle, et ensuite on le traite. Alors, capture à l'aveugle, c'est ça. Ça veut dire qu'on fait faire à la sonde un mouvement de ce type-là pour balayer l'organe. Bien entendu, il faut se mettre au-dessus. En vérité, ça donne ça. Donc, c'est une manœuvre pas compliquée pour un non-échographiste. Et voilà ce qu'on observe. Ça, c'est un foie, ici, en gris. Vous allez voir passer une structure noire. Voilà la vésicule biliaire. Donc, on sait que l'apprenti échographiste ou le non-initial échographie est passé à traverser la vésicule. À partir de ça, on fait une reconstruction en trois dimensions à partir du flux vidéo qu'on a reçu. Et ensuite, un plan virtuel que l'on nous permet de naviguer. Et on va retrouver l'image que l'on voulait avoir. On peut promener le plan virtuel et définir le plan dans lequel il faut se placer pour avoir l'organe. Ensuite, on renvoie ces informations via la voie de transfert lente dont on dispose, et la personne qui est à distance, qui va apprendre le geste, va simplement relire les documents et dire « bon, effectivement, il faut que je me place dans cette orientation pour attraper l'organe ». Et une fois qu'il aura récupéré cet incident, cette orientation, il pourra reproduire l'examen. Alors, c'est moins souple que ce que l'on avait avant en temps réel, mais ça fonctionne quand même. Alors, toujours sans image, afin de faciliter la réalisation de ces échographies, on a quand même imaginé qu'il fallait placer le système robotisé ou le système de capture 3D à un endroit bien précis. Donc, on a fait une cartographie des fenêtres acoustiques des organes sur le corps. Et ça donne, vous ne le verrez pas en image, tant pis, par exemple, je vais vous le montrer. Donc ici, on a à peu près une zone pour la vésicule biliaire, ici pour le rein, ici pour le pancréas. Donc on a une cartographie de l'individu, et ce qui permet dans une première approche de localiser à peu près l'endroit où on va faire la capture d'image. Une fois que la capture d'image, eh bien, on revient dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on n'a pas perdu grand-chose, vous avez vu l'essentiel. Simplement, je finissais la diapo en montrant une diapositive de mon domicile, à partir duquel, dans le grenier, j'ai installé des lignes ISDN et l'Internet avec une livebox. Et donc, je peux maintenant faire des conférences, comme j'ai fait la semaine dernière en Roumanie, à des étudiants, en leur montrant l'échographie, ce qu'il faut faire. On fait du diagnostic un peu partout dans le monde, et on s'aperçoit que finalement, quand on a des moyens de communication suffisamment élaborés, on est à une seconde ou deux secondes de n'importe quel point du globe, pour transférer de l'information. Et cette information peut être du cours, de l'image, du diagnostic, ce qu'on veut. Et je vous remercie de votre attention.